à une proximité suffisante de ces temps où il était évident que le monde a un créateur dans l'expérience, et pas seulement au niveau d'une notion. Et il y a une discussion dans le Talmud de savoir si ce principe de lier l'invocation du Gaal Israël, de celui qui a délivré Israël d'Égypte, qui est la dernière formule des brachot du Kriyat Shema, au commencement de la Tfila, doit être établi aussi le soir et pas seulement le matin. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le matin et le soir, il y a le même lien entre l'invocation de la sortie d'Égypte à la fin du Kriyat Shema et le commencement de la Tfila. Alors, on s'aperçoit dans cette étude que pour le matin, tout le monde est d'accord que ça va de soi, on fera ce lien. Pour le soir, il y a une discussion. En hébreu, ça s'appelle la smicha, le lien entre Geoula, l'allusion à la délivrance d'Égypte, et la tfila, la prière. Devant qui je suis pour prier, quelle est la définition de ma foi, en qui j'ai foi, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors la Gemara est établie. Pour le matin, c'est clair. Pourquoi ? Le matin, c'est clair, par définition. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que la sortie d'Égypte a eu lieu comme événement acquis au matin. Elle est annoncée pour minuit, elle se passe à minuit, le matin nous sommes sortis d'Égypte. Et donc le matin, dans l'expérience du matin, il est absolument clair que je peux me référer à une certitude d'un événement qui a déjà eu lieu. Vous comprenez la cohérence du raisonnement. Tandis que le soir nous sommes encore dans un temps de promesse. La sortie d'Égypte va avoir lieu. C'est le niveau, encore une fois, d'une expérience spirituelle importante, l'expérience de la foi en une promesse. Mais là, il s'agissait de la foi en une certitude. Je sais que je serai délivré, parce que j'ai expérience, ça a déjà eu lieu. Je ne suis pas dans un monde où il n'y a pas de délivrance. Je suis dans un monde où je sais qu'il y a eu délivrance. C'est l'expérience de la mémoire des Hébreux. Et encore une fois, jusqu'à la sortie d'Égypte, c'était une espérance en promesse. À partir de la sortie d'Égypte, c'est une certitude de foi. Je me base sur un événement réel et pas seulement sur une espérance idéale. Je reprends de cette manière les analyses précédentes. J'espère que ça continue à être suffisamment clair. Alors, dans le temps liturgique, tout le monde est d'accord le matin que on fera la smicha entre Geoula et Tfila. On dit le Kriyat Shema tout de suite après la Tfila. Vous avez remarqué que le matin, cette évidence d'unanimité des Hachamim se traduit par le fait qu'on ne dit pas de Kaddish entre le Kriyat Shema et la Tfila. La smicha, smichut, est totale, absolue. Dès que j'ai dit Kriyat Shema et ça finit par Gal Israël, je peux dire devant qui je me trouve et commencer à demander ce que j'ai à demander. Tandis que le soir, il y a une perplexité, je ne dirais pas un doute. Et je vais vous dire très rapidement, j'ai la tentation de vous faire lire l'étude, mais je crains que ça ne prenne trop de temps. Je vais vous dire l'essentiel, vous me direz si le raisonnement est suffisamment évident. Pour plus de sûreté, sachez que je n'aurai rien inventé, ça se trouve à la page 4b de la Maseret Brachot. C'est une discussion entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yohanan. Et alors, l'enseignement de Rabbi Yohanan est que qui mérite le monde à venir, Ezehu ben Haolam Haba, qui mérite le monde à venir, c'est celui qui lit le Kriyat Shema du soir, la prière du soir. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi dit, on a institué les prières entre les deux Kriyat Shema. Alors je vous décris, c'est pas la peine que je vous montre ça au tableau, faites un petit effort de visualisation. La halakha selon Rabbi Yehoshua ben Levi et notre halakha n'est pas comme Rabbi Yehoshua ben Levi. Il dit, selon Rabbi Yehoshua ben Levi, la halakha serait ainsi. Le matin, Kriyat Shema tfila, le soir, au milieu, Amincha, tfila de Mincha, et le soir, tfila de Arbit, Kriyat Shema de Arbit. Et ce qui n'est pas pour Rabbi Yehoshua ben Levi, le Kriyat Shema à la mita. Kriyat Shema qu'on dit avant de s'endormir sur le lit, à la mita. Okay? Je répète pour lui, tfilot, b'emtsar, tikenum, ça veut dire on a institué les tfilot entre les deux Kriyat Shema, emtsar. Okay? Et donc l'ordre serait, la halakha n'est pas comme ça, nous verrons pourquoi, l'ordre serait Kriyat Shema du matin, tfila du matin, tfila de mincha, tfila de arbit, Kriyat Shema de arbit. Ensuite, au moment de se coucher, le Kriyat Shema à la mita qui est une autre mitzvah. Que le Kriyat Shema soit. Donc c'est un sujet pour lui-même, bien évidemment. Et alors, nous avons en présence deux enseignements qui s'opposent. Regardez comment c'est formulé. Rabbi Yohanan dit, Ezehu ben Aolam Haba, qui méritera le monde à venir. C'est moi qui traduis comme ça, parce que littéralement ça veut dire qui est fils du monde à venir. Fils du monde à venir, fils de, comme on dit, fils de ses œuvres, à peu près ces expressions-là, ça veut dire en hébreu qui est déjà dirigé vers, qui déjà dans ce monde-ci est vers le fils du monde à venir. Okay, celui qui lit la Géoula à la Tfila du soir. Rabbi Yehoshua ben Lévi, donc, ne pense pas comme lui. Mais on verra pourquoi. Mais surtout, regardez l'expression. Il n'y pas il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est hypertrophié. Okay, c'est tellement important que celui qui fait comme ça, il aura la mappa. Est-ce que vous entendez le décalage, okay? Apparemment, un petit détail de liturgie, qu'est-ce qu'on lui promet? Le monde à venir. Vous voyez, c'est pas difficile d'avoir le monde à venir. Mais faites-vous le soir, dès que vous avez fini le krachma, vous dites là, tu l'as, exactement. C'est Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Alors voilà le raisonnement de la Gemara. La Gemara dit, pour expliquer ce qui différencie Rabbi Yochanan ben Lévi d'un côté, Rabbi Yochanan de l'autre, on peut l'expliquer soit par le recours au verset, Slicha, soit, et c'est le même verset qu'ils étudient tous les deux, soit par le raisonnement. D'abord par le recours au verset, en fait, lors de la Gemara, je prends le Gemara, c'est d'abord par le recours au raisonnement. Le recours au raisonnement donnerait ceci, que Rabbi Yehoshua ben Lévi pense que la Géoula, la délivrance, au moment du soir, est de l'ordre de la promesse, ce n'est pas encore une délivrance réalisée, elle n'est pas telle qu'on peut se fonder sur elle pour demander ce qu'on a demandé. Est-ce que c'est clair? Elle ne représente pas une expérience telle qui fonde la prière. L'expérience fondatrice ne peut être qu'une expérience d'un événement qui a déjà eu lieu, de la réalité, pas une expérience au niveau de l'idée, idéal, idéel. Et donc, pour Rabbi Yehoshua ben Lévi, étant donné que la délivrance, la Géoula vraiment n'est qu'au matin, celle du soir n'est pas délivrance. Et ça implique, nous dira la Gemara, que pour Rabbi Yochanan, bien que la délivrance dévoilée c'est le matin, la délivrance du soir est déjà délivrance. À quelles conditions? Qu'on s'y engage, par option de foi. C'est pourquoi il dit, qui méritera le monde à venir? Celui pour qui la délivrance du soir est déjà une délivrance. C'est de l'ordre de la foi. Est-ce que c'est clair? Et je reviendrai d'ailleurs sur cette définition. Du point de vue du recours au verset, eh bien, ils lisent tous les deux le même verset. Il est écrit, en te couchant et en te levant. Beshrovecha ou Kumecha. En te couchant renvoie au cri de Shamar du soir, en te levant, renvoie au Kriyat Shema du matin. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, on va faire une équivalence entre ce qui se passe le soir et ce qui se passe le matin. De la même manière que le matin, le Kriyat Shema est en sortant du lit, le soir, le Kriyat Shema, c'est en rentrant au lit. C'est clair? Plus exactement, oui, j'ai mal traduit, c'est Samour le Mitato, et joint au fait qu'on vient de se lever le matin. Alors le soir, ça sera joint au fait qu'on va se coucher. On dira encore Kriyat Shema à la mitzvah, mais c'est un autre Kriyat Shema. Mais c'est après la Tfila. Ça, c'est Rabbi Yehoshua ben Lévi. Tandis que Rabbi Yochanan dit, on va faire le soir comme le matin. De la même manière que le matin, il y a d'abord Kriyat Shema ensuite la Tfila, le soir, il y aura d'abord Kriyat Shema ensuite la Tfila. Ça veut dire quoi, ce raisonnement? Ce double raisonnement, parallèle. Ça veut dire que, lorsqu'il faut décider de l'engagement de la foi, ni ce qu'on pourrait appeler le recours à l'idéologie, le raisonnement, ni l'érudition, le recours au verset ne peut trancher. Ça nous explique pourquoi ce qu'il faut, c'est un engagement de la foi. C'est-à-dire, ceux qui attendaient le lendemain matin pour sortir de l'Égypte ne seraient jamais sortis. C'est clair. Moïse leur a dit, à minuit, on sort. Déjà le soir, ils sont partis. Pour qu'à minuit, on sort, il faut partir le soir. Celui qui dit, ah bon, à minuit on sort, alors on est sûr que demain matin, rendez-vous demain matin. Okay? Cela ne sort pas. C'est bien clair. Vous voyez, elle vient dire Rabbi Yehoshua ben Lévi. Alors oui, les forces de la perplexité. Est-ce qu'il s'agit vraiment déjà de l'annonce d'une délivrance? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de trompeur qui ressemble? Vous devinez à quoi je pense. Okay? C'est la querelle entre les uns et les autres. La sempiternelle querelle. Okay? Je vais revenir pour l'identifier. Tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, on rentre dans la nuit, mais quelqu'un a dit, vous savez, dans cette nuit se cache une lumière qui éclatera demain matin. Et alors, de toute façon, c'est la réaction que ce serait, il y a deux réactions différentes. Ceux qui voit cette lumière cachée. Et ceux qui ne la voient pas du tout. Et qui disent, oui, on voit une lueur. Mais est-ce que ce n'est pas une lumière trompeuse? Est-ce que ce n'est pas Maras et Satan? Est-ce que ce n'est pas des fantasmagories? Okay. Vous avez compris à quoi je ne fais pas allusion. Alors, c'est assez étrange. À quel point c'est très directement cohérent. C'est-à-dire, comment je vous avais défini le sujet? La sortie d'Égypte comme fondement de la foi d'Israël. Et effectivement, la sortie d'Égypte a été un critère qui a séparé ceux qui avaient la foi et ceux qui n'avaient pas la foi. Alors, ceux qui avaient la foi l'ont dévoilé le soir et pas le lendemain matin. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et donc, le fondement de la foi d'Israël, nous en avons pour modèle la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'est cet engagement de la smicha entre la geoula et la tfila le soir qui permet de passer olam haba. C'est ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Alors, j'espère avoir suffisamment caractérisé ces deux positions, si vous voulez, je vous les identifie. L'une, c'est la position qui dit que on ne peut être sûr de la délivrance que lorsqu'elle est complètement dévoilée qu'elle a eu lieu, et par conséquent, au début, qui va dire que c'est? Alors, vous savez de qui je parle, okay, des hommes religieux, mais pas sionistes. Okay, et alors, on profite de ce qu'il y a grâce aux sionistes. Les sionistes disent grâce à Dieu, enfin les religieux, okay, un état d'Israël, pour dire la prière dans l'état d'Israël, mais pas pour l'état d'Israël. J'ai remarqué ça. Okay. Et puis, les autres, ceux qui disent ça a commencé, on s'engage. Et vous voyez qu'il y a un clivage de nature. Ce qu'on oublie, c'est que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Lévi. Il y a ces deux opinions dans la Gemara, mais la halakha a tranché. Et la halakha a tranché pour Rabbi Yochanan. Donc halakha, il faut être sioniste. Je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer ce qu'avait dit Herzl. Si vous voulez, ça ne sera pas une agada, ça sera une halakha. Et voilà le premier texte que je voulais vous rappeler pour fonder un peu cette illustration que nous donne la référence à la sortie d'Égypte comme fondement de la foi d'Israël. Mais je reviens sur ce point, c'est extrêmement important. Cette idée du Talmud, il y a 10 lignes. Cette idée du Talmud nous montre qu'à certains moments importants, de perplexité multiple, eh bien, ni l'érudition, ni l'idéologie ne peuvent permettre de trancher. Chacun dit qui il est dans la manière dont il s'engage dans la dimension de la foi. Bon, j'ai dit des choses qu'il faut entendre du niveau d'une analyse, pour comprendre. Et bien entendu, encore une fois, je vous demande de ne pas habiller les uns et les autres de ce qu'on a appris en typologie. C'est de la typologie. Okay, en fait, ce texte nous remet, au fond, à la situation de la sortie d'Égypte. Quand Moïse, le soir, dit « À minuit, Dieu passera et vous passerez avec lui. » Eh bien, ceux qui ont dit oui, ont passé. Ceux qui ont dit non, ils n'ont pas passé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'Israël. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de Torah, enfin la Torah qu'il y avait à cette époque-là. Ça ne veut pas dire tout ce que vous voudrez. Mais il s'est déclenché quelque chose d'autre chez ceux qui se sont engagés dans la smicha entre la Géoula et la Tfila du soir, il ne s'est pas déclenché chez les autres. Je crois qu'on peut dire à l'honneur du Talmud qu'il a là un niveau de dignité, d'objectivité extraordinaire. Le Talmud nous dit la halakha, c'est qu'on fait la smicha le soir. Mais on sait l'opinion de Rabbi Yochanan ben Lévi, c'est un grand Israël. Ce grand Israël qui dit, il y a un doute, est-ce qu'on peut? Vous voyez? Alors bon, en termes clairs, la position politique, si vous voulez, la position de l'Agudat Israël en général et de tout ce qui va avec par rapport à l'État d'Israël, c'est de dire ce n'est que le soir, ce n'est pas une vraie Géoula. On attend demain matin. Et on attend un Géoula là-bas, un Shabbat. Oh, c'est Géoula. Et alors que les autres, les sionistes religieux, dès que le soir a commencé, ils ont dit on s'engage. Et ils ont fait un État d'Israël. Bon. Voilà comment ça se rattache à la sortie d'Égypte. Et je pense pas, pour exemple, les grands rabbins d'Israël du temps de la restauration de l'État ont donné à Yom HaTzmaout une liturgie parallèle à celle de Pessah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque on suit la prière de Yom HaTzmaout, on s'aperçoit que la liturgie a été composée, de, formulée de manière qu'elle rappelle la liturgie de Pessah. Vous avez dû remarquer cela. Donc, voilà, je vais marquer leur idée. Est-ce que vous voulez qu'on voit un autre texte, ou bien, si vous avez des questions à poser, parce qu'il est déjà, l'heure est arrivée, vous avez la parole. Si vous voulez quelques précisions là-dessus.
Je veux dire qu'il y a néanmoins un catiche entre...
Oui.
Vous avez une toute petite nuance...
Non. Non, mais malgré tout, bien sûr. Mais malgré tout, oui, malgré tout, il y a beaucoup de détails dans l'application de la liturgie qui vont vers le, sur le fait qu'il y a une problématique de discussion dans la Gemara. Mais malgré tout, l'ordre est ainsi. Kriyat Shema d'abord, et ensuite Tfila. Je pense que c'est bien clair, Ken. Bien. Oui, parlez un peu fort parce que je n'entends pas de loin.
Le moment de la sortie d'Égypte est arrivé, c'était dans leur propre nature ou c'est quelque chose d'extérieur à leur nature? Il y en a qui ont pris d'autres qui n'ont pas
vu. Oui, ça peut être une manière d'expliquer ce que vous dites, que c'est dans leur nature. C'est bon, peut-être ça me permet d'aborder le deuxième texte. Je vais vous le dire de mémoire pour ne pas avoir la tentation de le lire dans le livre, c'est plus long. Hein. Mais je vais vous donner la référence. Comme ça, ça vous fera faire des travaux pratiques. On appelle ça la Jérôme Baït. En fait, il n'y a pas deux natures juives. Et tous les juifs sont des juifs. Et ça, il faut bien le retenir. Tous les descendants de Jacob sont des descendants de Jacob. Ouais. Il y a des juifs enrhumés, il y a des juifs... Bon, mais ils sont tous juifs. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une question de nature, bien qu'on trouve un peu cette explication. Je vais citer un texte qui se trouve dans la Gemara de Shabbat. 89, dans les minutes que je... Non, je crois que c'est ça, que je vérifie. Dans la Gemara de Shabbat, à la page 89b, on raconte ceci. À propos d'un verset qu'on dit dans la prière le matin, la fin de la prière du matin, un verset d'Isaïe, qui dit, si vous voulez, je vous donne la référence, qui dit ceci, Abraham ne nous a pas connus, Israël ne nous reconnaît pas, Israël c'est Jacob, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père. La Gemara dit, on dit, Abraham ne veut pas nous reconnaître, Jacob non plus, et donc on s'adressait à Isaac. Et alors, voilà ce que la Gemara raconte. Un jour, Dieu dit au patriarche, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit « Imahou l'Ikdushat Shimcha ». On traduit habituellement qu'il soit « Imahou » effacé, annulé, okay, terrible, pour le Kiddush Hashem. Première lecture, et c'est le Pshat. Rappelez-moi, je vous en donne une deuxième. Abraham, Dieu dit à Abraham, tes enfants, fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? « Imahou l'Ikdushat Hashem ». Il dit « Bon, ça c'est le commencement de l'histoire, peut-être je vais demander à la fin. » Il va demander à Jacob. « Jacob, tes enfants, fauté, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Effacé pour la sainteté du nom. On lui a dit, ni les anciens, ni les nouveaux. Je vais demander à Isaac. Isaac dit, Dieu dit à Isaac, tes enfants ont fauté. Isaac dit, mes enfants, mais pas tes enfants à toi. Il dit, quand ils ont dit, Naase ben Ishmar, tu as dit, Béni Bechori Israël, mon fils premier-né Israël, et maintenant tu me dis, tes enfants ont fauté. C'est un texte très fort. Hein. Et Isaac continue, et d'abord, combien ils ont fauté? Combien c'est la vie humaine? En général, 70 ans. On lève la moitié, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'il reste? 35 ans. On lève encore la moitié, le travail, l'étude, il y a des gens qui étudient. Qu'est-ce qu'il reste? Et finalement, il reste à 12h30 par jour. Alors Isaac dit à Dieu, ou bien on partage, tu prends la moitié, je prends la moitié, et puis tu leur parles. Et si tu veux pas, je prends tout. Et d'ailleurs, j'ai déjà tout pris, le sacrifice d'Isaac. Alors, pardonne-leur. C'est un texte assez extraordinaire. Alors, je veux revenir un peu sur la... Alors c'est là que Israël a dit, le peuple d'Israël en bas, qui était inquiet du dialogue des patriarches avec Dieu, Abraham ne nous reconnaît pas, Jacob ne nous reconnaît pas, c'est toi notre Dieu. Abinoata, c'est toi notre Père. Alors Isaac fait un clin d'œil, regardez plus haut. Et ils ajoutent, c'est toi Dieu notre Père. Vous avez compris un peu le problème. C'est comme ça la Gemara. Il remonte plus haut. Et alors, la première lecture, c'est ce qu'a répondu Abraham et Jacob, c'est Imahu le Kdushat Shimcha. On traduit habituellement comme ça, qu'il soit le déluge, Imahu. Les rabbins ont donné une autre lecture. Que leurs fautes soient effacées parce qu'ils se sont exposés pour la sainteté de ton nom. Imahu et Avonot, le Kdushat Shimcha. Vous entendez cette autre lecture, okay? Mais. Et donc. Le plaidoyer d'Abraham et de Jacob est important. Il est maintenant à sa place. Okay? Qu'est-ce que Abraham et Jacob répondent ? Oui, ils ont fait des fautes. Mais ils sont persécutés pour ton nom. Alors pardonne-leur. C'est clair. Donc, Isaac va beaucoup plus loin. Isaac intervient en disant, quoi ? Mes fils et pas tes fils. Ça veut dire, dans tous les cas, ça va dans le sens de l'enseignement de Rabbi Meir, que il y a toute une discussion. Est-ce que Israël est appelé fils par rapport à Dieu quand il quand ils accomplissent sa volonté, et s'ils accomplissent pas sa volonté, ils sont appelés abadim, mes serviteurs. Finalement, Rabbi Meir tranche dans un cas comme dans l'autre, sa volonté ou pas sa volonté, ils sont appelés les fils. Et d'où on apprend qu'au moment de la sortie d'Égypte, comme l'a cité Yitzhak dans ce midrash, qu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu a dit à Moïse de dire au Pharaon, mon fils premier-né, c'est Israël. Si tu ne le laisses pas sortir, garde au tien ton fils premier-né. Vous savez ce qui est arrivé finalement à la mort des premiers. Et c'est un sujet très important parce que entre Ésaü et Jacob est en discussion depuis le commencement de l'histoire qui est le premier-né, c'est au moment de la sortie d'Égypte qui se dévoile que c'est Jacob et que c'est pas Ésaü. Ça, vous l'apprenez dans la Haggadah, que Ésaü n'a pas accepté l'exil. Et Jacob et ses fils sont descendus en Égypte, ils ont accepté le poids de l'histoire humaine, alors que Ésaü, c'est les conquérants, les missionnaires. Et puis, des fois, ils sont pères, c'est des pères missionnaires. Et alors, au moment de la sortie d'Égypte, il se dévoile que vraiment, c'est les descendants de Jacob qui sont les descendants de Béni, Bechori, Israël. Et alors, ce qu'a indiqué tout à l'heure, parce que je viens d'un kénès de Rabbanim, c'est pourquoi d'ailleurs les horaires de Echonrim, du séminaire, ont été un peu changés. Et il y avait ce que je vous cite là, à partir de maintenant, c'est un enseignement du Rav Eliyahu, qui est le Rishon Lezion, et qui a dit ceci, c'est qu'Isaac ne voulait pas admettre une différence de catégorie chez les fils. C'est-à-dire les fils d'Isaac, les Isaacson, et puis les fils de Dieu. Alors, c'est ça l'interpellation, ça m'a beaucoup frappé la manière dont il l'a expliqué, c'est ça l'interpellation de Isaac. Mes fils et pas tes fils, jamais de la vie. Quand ils ont dit Naas et Benishmar, tu les as appelés Beni Bechori Israël, et maintenant c'est mes fils à moi. À partir de maintenant, je développe un peu ceci. C'est qu'en fait, ils ont dit Naas et Benishmar au Sinaï, mais Dieu a dit Beni Bechori Israël à la sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas encore dit Naaseh Benishmar. Donc l'argumentation de. Et ça, le Rav a cité, je pense, Rashi. Oui, Rashi sur la Gemara. L'argumentation de Isaac est très profonde. Ça veut dire, alors qu'en Égypte, on ne pouvait pas distinguer entre les Égyptiens et les Hébreux. Ben, vous allez à Sarcelles, allez distinguer entre les Kabyles et les Juifs. Et j'ai pas dit que les Kabyles étaient des Égyptiens. Et alors, le Midrash dit Elou, Abdarvanazara, Elou, Abdarvanazara, en Égypte. On ne pouvait pas les distinguer. Mais Dieu savait qu'il allait sauver Israël, parce que c'est cet Israël qui, au pied du Sinaï, dira Naaseh Benishma. C'est clair? Voilà, alors vous avez compris, c'est pas une différence de nature. Dans les apparences, on croit, je vais dire des mots limites, les datim, les chilonim. Okay? Dans les apparences, on croit que les chilonim sont moins juifs que les datim. On ne sait pas. Okay? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ces chilonim d'Égypte qui, au Sinaï, ont dit Naaseh Benishma. Je parle des Hébreux, bien sûr. Et est-ce que c'est clair? Pourquoi je parle d'eux? Parce qu'ils se sont identifiés, avant qu'on ait reçu la Torah, ils se sont identifiés comme concernés par l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils font partie du peuple d'Israël. C'est pas ceux qui sont restés en Égypte. Est-ce que c'est clair? Bon, alors je pourrais étendre cette explication à votre question. On ne peut pas dire que c'est une différence de nature qui a fait que cela, on dit oui, cela, on dit non. Il y a aussi d'autres facteurs. Et c'est, à partir de ce moment-là, c'est une question qui nous dépasse. C'est-à-dire qui est de l'ordre du mystère. Il y a dans la Kabbalah qu'on étudie. Okay. Ça dépend des Gilgulim de qui ils étaient. Bon, je n'ai pas traduit, vous avez remarqué. Remarquez que ce mystère va jusqu'à nous. Pourquoi certains arrivent en Israël et pas d'autres? C'est mystérieux. Et pourquoi certains arrivent en Israël, certains sont à Jérusalem, chez les sionistes, et d'autres sont à Eilat, faire du vol à voile. J'ai pas parlé de Beersheba, ni de Haïfa. Il y a des degrés. Okay. Sur la route, il y a aussi d'autres villes. Enfin, Hassidim. Pourquoi pas Jérusalem? Okay. Oui, à peu près. Chacun sa madrigal. Alors, c'est mystérieux. Ça, c'est le. J'aime pas employer ce mot de mystère, comme vous le savez. Enfin, je crois que là, il est peut-être à sa place. En hébreu, on dirait les mystories. C'est le gilgul de chacun qui nous dépasse. Là, Dieu seul le sait. Mais je ne crois pas que ce soit une différence de nature. Parce que c'est tellement différent un juif goy, un juif d'un goy. Ça veut dire que même un juif goy, c'est un juif. Non, je veux dire que même un juif enrhumé, c'est un juif.
Mais la réaction d'Israël que tu viens de nous décrire ressemble plus à Abraham parce que Israël fait ici preuve de chesed. Comment se fait-il que l'homme de la Gvoura
bien fait. Parce que quand l'homme de chesed fait preuve de chesed, c'est pas valable devant le tribunal. Il dit son cœur travaille comme ça, c'est pas forcé que c'est un témoignage, c'est un élan. Quand l'homme de Gvoura témoigne de chesed, c'est vraiment du chesed.
Rabbi Yoshua ben Lévi faisait le schéma après la Amida.
Non, il faisait comme tout le monde, c'était un juif normal. La halakha, il faisait la halakha. La halakha a tranché, il faisait la halakha. Mais il enseignait dans la discussion que il faudrait peut-être faire comme ça.
Éventuellement.
Pas éventuellement. Il était de cette déra, il était agoudiste. C'est de cette déra-là. Mais une fois la halakha tranché, il a fait comme la halakha. C'est clair? Comme tous les chachamim normaux. Du chasse, pas de... du mouvement chasse. De... pas du chasse et chalom. Bien.